Alexis de Soif était l'invité des tribunes de l'ULB le 18 novembre 2015. Le président de la Ligue des droits de l'homme a présenté des arguments concrets pour répondre à la question « Les réfugiés sont-ils des hors-la-loi ?»
Le mandat de la Ligue des droits de l'homme, c'est combattre les injustices et toute forme d'atteinte aux droits fondamentaux en Belgique. Et forcément, ce sont souvent les catégories de citoyens les plus fragiles de la société qui sont victimes d'atteintes à leurs droits fondamentaux. Et c'est comme ça que souvent, on reproche à la Ligue des droits de l'homme de ne défendre que les prisonniers, que les étrangers. Mais non, on va beaucoup plus loin dans la défense des catégories de personnes. Mais c'est vrai que sur ces matières-là, nos gouvernements successifs nous donnent beaucoup de travail. Le thème de la soirée, le titre évidemment un peu provocateur, « Sont-ils des hors-la-loi ?» mais c'est finalement ça le paradoxe, c'est que de plus en plus, les réfugiés sont considérés comme des hors-la-loi, et c'est ce qu'à la Ligue des droits de l'homme nous dénonçons, c'est cette forme de criminalisation du réfugié, ou la criminalisation de l'étranger, la criminalisation du sans-papier, alors que justement, ce ne sont pas des hors-la-loi, ils ont des droits, n'en déplaise à certains, que ce soit des conventions internationales directement applicables en Belgique, Convention européenne des droits de l'homme par exemple, Convention de Genève, ou dans la loi nationale, notre fameuse loi de 1980 sur l'accès et le séjour des étrangers. J'ai essayé de structurer mon intervention à 4 points. D'abord, la situation des départs et le droit de quitter son pays. La situation ici, quand les réfugiés sont ici en Belgique, avec les différentes questions que ça pose. Que fait l'Europe, le 3e point. Et puis un point sur l'avenir. Et il paraît que j'ai 45 minutes pour ça, donc je vais devoir quand même ne pas trop traîner. Ces avocats, parfois, une fois qu'ils ont la parole, ils ont tendance à être bavards. Sur le droit de quitter son pays. On le voit ces derniers mois, ces dernières années, avec le Moyen-Orient qui s'embrase, des personnes qui n'ont pas d'autre choix que de quitter leur pays, il faut bien savoir que le droit de quitter son pays est un droit fondamental. Et c'est ça la Convention de Genève. Je ne vais pas vous faire un exposé sur la Convention de Genève, mais quand on craint pour sa sécurité, sa liberté ou sa vie, on peut quitter son pays, évidemment. Face à ces départs et face au drame qui se joue, parce que finalement, il y a les départs, il y a la manière dont ils doivent quitter cette pétaudière qu'est le Moyen-Orient ou quitter le continent africain par la Libye. Et le résultat, depuis des années, les associations le disent, la Méditerranée est en train de se transformer en cimetière. C'est seulement depuis début 2015 que les autorités européennes prennent conscience du drame qui se joue, finalement, quand l'Italie a décidé de dire « Nous, on en a marre de secourir en mer tous ces réfugiés, tous ces bateaux qui n'emportent que le nom de ces passeurs, on arrête notre programme de secours en mer. » Et alors qu'il y a déjà eu des drames depuis 2011-2012 à intervalles réguliers, il y a eu une succession de drames avec un tel nombre de morts que l'Europe s'est réveillée. Et le citoyen européen aussi s'est réveillé en disant « mais c'est pas possible ». Et donc forcément, les dirigeants européens ont voulu réagir. Et face à ce drame, et j'insiste là-dessus, la première réponse, elle ne peut que être humanitaire. Et le droit, parfois, et c'est un juriste qui le dit, le droit ne vient qu'après. Face à un drame, la première réponse, elle est humanitaire, c'est sauver les vies, c'est des secours en mer. Alors, vous imaginez bien, ça semble logique, mais rappelez-vous, dès les premiers sauvetages en mer début 2015, n'a-t-on pas entendu notre secrétaire d'État à l'immigration, M. Franken, commencer à analyser la situation en disant « il ne faut peut-être pas s'approcher trop proche des côtes libyennes, parce que si on s'approche trop près, ça va créer un appel d'air, hein, le fameux appel d'air qui est la hantise de tous nos responsables politiques, ça va créer un appel d'air ». Et puis les passeurs vont envoyer des bateaux de plus en plus brinque-ballants et on devra sauver de plus en plus de personnes. Comment ose-t-on, quand on dit que la première réponse doit être humanitaire, qu'il faut sauver des vies, commencer à dire on ne peut pas s'approcher trop près? C'est quoi la bonne distance? C'est combien de morts, à partir de combien de noyés, on peut s'approcher de la côte libyenne, etc. Je pose la question. Quand j'entends Bardouet dire la semaine passée encore publiquement à la VRT, peut-être qu'il faut arrêter les secours en mer. Parce que ça ne fait qu'appeler les réfugiés. Il veut quoi? On les laisse mourir? On transforme la Méditerranée en un grand cimetière? C'est ça la réponse nationaliste européenne? C'est un manque de décence. Et alors, le deuxième point par rapport à ça, c'est la question des passeurs. C'est le grand ennemi. Les passeurs, on vient chaque fois avec ça, et finalement, la réponse, la première réponse de toute une série de dirigeants, plutôt que de dire « elle doit être humanitaire », c'est porter secours, c'est « ah non, non, on va s'attaquer aux passeurs hein ». Je sais que le mot « guerre » est un peu à la mode depuis ce week-end, mais on l'a déjà utilisé pour les réfugiés et pour les passeurs. On va faire la guerre aux passeurs. Monsieur Yambon a même dit publiquement en Belgique « on va couler les bateaux ». On va mettre nos navires de guerre et on va couler les bateaux. Et au niveau européen, il y a un consensus, sous la pression des États, principalement des États des pays de l'Est, mais aussi de gouvernements de droite comme le nôtre, de dire on ne peut pas, hein, parce que les solutions qui viennent de l'Europe avec les quotas, ça, tout ça se négocie, c'est aussi une guerre aux passeurs. On va s'attaquer aux passeurs. Alors couler les bateaux, ben, moi j'espère qu'on va quand même vérifier qu'il n'y a pas de migrants à bord. Hein. Et puis même s'il n'y a pas de migrants à bord, peut-être qu'on peut aussi, avant de couler un bateau, se demander qu'il n'y ait peut-être pas de passeurs à bord, parce que, sauf de ma part, en Europe, il n'y a plus la peine de mort, et donc on ne va pas envoyer par le fond des bateaux avec des passeurs dessus. Il y a des procédures, des interpellations, arrestations, on saisit le bateau. Je ne parle même pas des considérations environnementales, de ne pas couler les bateaux au fond de la Méditerranée, mais soyons sérieux. Ne communiquons pas n'importe comment sur un sujet aussi sensible et on voit qu'on s'attaque aux conséquences plutôt qu'aux causes. Parce que finalement, les passeurs, c'est quoi? C'est la conséquence de la politique européenne et de la forteresse Europe. On met des murs, on met des barbelés, on interdit aux gens de venir et les gens viennent quand même et la seule solution, c'est de faire appel aux passeurs. Et tout ce qu'on nous propose au niveau européen, c'est encore plus de forteresse Europe. Tout ce qu'on voit se développer dans les pays de l'Est, c'est encore plus de barbelés, encore plus de murs. Ça fait le business des passeurs. Il paraît que ça fait aussi le business de grandes entreprises, ça fait le business d'agences, etc. Le budget, j'ai lu un article récemment dans la presse française, le budget de l'Europe forteresse avec tous ces contrats de surveillance des frontières, etc., qui bénéficient à des grandes entreprises privées, c'est 7,8 milliards par an. Hein, on voit le budget déjà. Hein. Quand on parle, je parlais tantôt de l'aide au développement, on peut peut-être se poser quelques questions. Attaquer efficacement les passeurs, il y a des solutions très simples. Hein. J'y viendrai quand je parlerai de l'avenir, mais octroyer un visa humanitaire. Je suis aussi avocat. J'ai été contacté, j'ouvre une petite parenthèse, par une dame, nationalité belge, d'origine syrienne. Elle est venue fin des années 80 faire ses études. Elle est infirmière, elle est mariée. Son mari travaille, ils travaillent tous les deux, ils ont deux enfants. La famille de madame est originaire d'Alep. Ils ont quitté Alep en ruine. Ils ont trouvé refuge au Liban. Ils sont là, donc les grands-parents et deux sœurs de madame et une nièce. Et ils attendent. Ils sont dans un camp de réfugiés surpeuplé où l'aide est réduite. Et c'est le gros problème des camps dans les pays voisins de la Syrie. C'est ces camps débordent, les moyens diminuent. C'est aussi ça qui a fait en sorte qu'il y a de plus en plus de réfugiés qui ont voulu aller plus loin, traverser la Méditerranée notamment. Et ils n'ont pas l'argent pour faire appel à un passeur. Hein, ça coûte très cher, entre 5 et 10 000 euros par personne. Et on a voulu faire du droit. Je leur ai dit, allez à l'ambassade de Beyrouth, l'ambassade de Belgique, vous faites une demande de visa, court séjour, et on joue carte sur table, en vue de demander l'asile en Belgique. On explique toute la situation familiale. On n'est pas exactement dans le cadre d'un regroupement familial, on n'est pas dans un cadre de visa long séjour. Non, on demande un visa humanitaire en vue de demander l'asile. Eh bien, au bout de 3 mois, j'ai eu la réponse négative vendredi matin. J'ai eu la dame au téléphone hier, et elle m'a dit que c'est à cause des attentats en Paris hein, qu'ils ont refusé. Je dis non, je vous garantis, c'est vendredi matin que j'ai eu la réponse négative par téléphone, ça n'a rien à voir avec les attentats, mais je comprends sa question. Mais donc, le jour où un dirigeant dira « moi je veux faire la guerre aux passeurs, je permets par exemple à des personnes qui ont de bonnes raisons de venir en Belgique parce qu'ils ont un membre de leur famille qui est belge, etc., et qui veulent venir, eh bien, de demander un visa humanitaire et de venir légalement comme ça, on coupe l'herbe sous le pied des passeurs. » Les causes. Il ne faut pas vous faire un dessin, les guerres, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, les dictatures, vous parliez de l'Érythrée. Moi, j'ai vu aussi que l'Europe a un programme de financement de l'Érythrée, du gouvernement érythréen, qui est une des pires dictatures au monde. Sur les 5 ans, c'est un programme qui a commencé en 2014, sur 5 ans, l'Europe va payer 360 millions d'euros au gouvernement érythréen pour qu'il garde sa population chez elle. Donc l'Europe a des gros moyens financiers pour demander à une dictature horrible, hein, l'Érythrée, souvenez-vous, c'est ce nouveau pays qui s'est scindé de l'Éthiopie, pour garder sa population chez elle. La pauvreté aussi, parce que moi, il faudra quand même un jour qu'on m'explique la différence, même si, enfin, je dis ça un peu en provoquant, mais à la boutade, mais on peut quitter son pays pour sauver sa peau parce qu'on fuit la guerre, mais on peut quitter son pays aussi pour fuir parce qu'on va crever de faim ou qu'il n'y a pas d'avenir pour les enfants. Et c'est aussi une bonne cause, même si ça n'entre pas dans le cadre de la Convention de Genève. Mais la pauvreté est aussi un gros moteur des migrations. Les injustices et les inégalités nourrissent et sont à la base des migrations. Nos gouvernements occidentaux devraient s'en rendre compte bien davantage. Et je ne vous parle même pas des futurs réfugiés climatiques. J'ai pas pu m'empêcher de sourire quand j'ai vu les cartes du réchauffement climatique publiées dans le Soir la semaine passée. On voyait que si la température dans le monde augmentait de 1,5 degré, toute la Flandre était sous eau. Anvers devenait une petite île. Peut-être que ça arrange un certain bourgmestre là-bas. Mais Anvers devenait une petite île et l'eau montait jusqu'à Gand. Peut-être que, hein, on peut se rendre compte aussi que les réfugiés climatiques, alors que c'est fort controversé, c'est une vraie réalité qui nous pend au nez aussi en Europe. Question de cohérence. Question de cohérence, et j'insiste là-dessus. On travaille exclusivement sur les conséquences de la migration. On devrait travailler sur les causes de la migration. On doit se poser la question de l'aide au développement. On n'arrive même pas à notre promesse de 0,7% du PIB. Hein, on arrive à 0,4 ou 44. La question des ressources naturelles, discuter avec des Africains, c'est chaque fois cette question-là qui revient, en disant « question des ressources naturelles, il y a des richesses dans notre pays qui permettraient d'augmenter le niveau de vie et donc que les gens puissent rester chez eux ». La question du commerce international des armes et de cohérence au niveau de notre politique étrangère, il faut quand même se rendre compte. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport du GRIP qui a fait une étude sur les armes légères en circulation au Moyen-Orient. Une arme sur deux est made in Belgium. Alors on est champion du monde des armes légères au Moyen-Orient. Très bien. Notre meilleur client, c'est l'Arabie Saoudite. Très bien. L'Arabie Saoudite finance et arme l'organisation terroriste État islamique. Ça devient un peu moins bien. Hein. On envoie nos chasseurs F-16 bombarder l'État islamique. On met nos militaires dans la rue pour nous protéger contre des returnistes qui viennent de Syrie et qui commettent des attentats. Je ne vais pas vous faire un dessin pour l'actualité. Mais on continue à vendre des armes à l'Arabie Saoudite comme si de rien n'était. Un peu de cohérence, notamment dans le commerce des armes et l'exportation des armes, permettrait de ne pas alimenter des conflits qui jettent sur des routes des réfugiés. Et qu'on ne vienne pas nous dire que nous sommes des grands naïfs, que la FNRSTAL, c'est 2000 emplois ou 3000 emplois en région wallonne. Comment est-ce que cet argument peut encore être utilisé quand on voit les attentats, quand on voit ces colonnes de réfugiés? Mon deuxième point. Le droit de venir chez nous. Ils ont le droit de venir chez nous. Ils demandent l'asile. Alors, je sais que certains ont une conception très très stricte du droit de venir chez nous. J'entendais Bardouet dire, dans l'émotion de la photo du petit Aylan, vous vous souvenez, c'était en septembre, de oser dire, il faut le dire, sans respirer et sans rire, que les parents du petit Aylan, en fait, ils étaient réfugiés jusqu'au moment où ils traversaient leur frontière syrienne vers la Turquie. Et une fois qu'ils décident de poursuivre leur route et donc de prendre la mer avec leur fils, avec les conséquences dramatiques qu'on a vues, qu'en fait, c'était des migrants économiques. Et que, vu qu'ils étaient en Turquie, qu'ils avaient fui leur pays. Et donc, c'est des migrants économiques. Et vu que des migrants économiques, on ne peut pas les accepter en Europe, ben, ça ne va pas. Alors, à suivre la définition de M. De Wever, ou sa conception de ceux qui ont le droit de venir demander l'asile, eh bien, on ne pourrait accepter que ceux qui viennent par le port d'Ostende, de Zeebrugge, Anvers, et puis les aéroports de Bruxelles et Charleroi. Ou alors, uniquement des pays voisins. Mais là, il n'y a pas de réfugiés qui viendront des pays voisins, des nationaux des pays voisins qui viendront. C'est évidemment aberrant. la Convention de Genève, je le disais, quand on craint avec raison pour sa sécurité, sa liberté ou sa vie, c'est bien le cas par exemple des réfugiés syriens qui arrivent, la Convention de Genève parle plutôt de 5 critères, hein, la race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social et les opinions politiques. Donc quand on dit réfugiés politiques, c'est un petit résumé parce qu'en fait c'est bien plus large que ça. Par rapport à ces réfugiés qui arrivent, on parle souvent d'invasion. Alors relativisons quand même, c'est grandement les pays voisins qui absorbent la toute grande majorité des réfugiés. Il n'y a que quelques pourcents, hein, je pense que c'est 8% qui arrivent en Europe. Tout le reste des réfugiés, notamment de la Syrie, sont dans les pays voisins. Mais la même chose se constate pour les pays africains où il y a des réfugiés. Il y a eu plein de personnes qui ont quitté le Burundi. Ils sont tous au Rwanda ou au Congo. Il n'y en a que quelques-uns qui sont arrivés ici parce que justement, avec la forteresse Europe, c'était impossible d'arriver ici. Les pays voisins, le Liban, plus d'un million... 1 200 000, je pense, de réfugiés syriens pour une population qui fait 4 millions et demi. Donc ça veut dire qu'un quart de la population, 25% de la population, sont des réfugiés syriens. Je pense que les chiffres au niveau européen, après l'année 2015, ce sera 1 pour 1000. Hein, alors relativisons. Et relativisons aussi, cette année on aura peut-être 25 000 réfugiés, peut-être un peu plus, peut-être 27 000, mais les chiffres, on leur fait toujours dire un peu ce qu'on veut. Madame de Bloch s'amusait toujours à insister pour dire « Oui, mais en 2007, on n'avait que 11 000 réfugiés. » Donc, à la fin de son mandat, elle s'agitait déjà parce qu'on arrivait à 16 000, 17 000 et qu'il fallait donc envoyer des signaux clairs parce que la Belgique, il y avait un relâchement, etc. Ça n'allait pas. Mais en l'an 2000, c'était plus de 42 000 réfugiés, effectivement. C'était la guerre des Balkans, le Kosovo. Évidemment, à l'époque, la situation était différente. Beaucoup de refus. Mais on a dû accueillir 42 000 personnes. Alors ça n'a pas été facile. Il y a aussi eu des personnes à la gare du Nord, etc. Mais c'était autrement plus important qu'aujourd'hui. Ce qui m'amène à parler de ce droit à l'accueil. Hein, quel est le droit du candidat réfugié, finalement? Pas du réfugié, parce que si on s'arrête vraiment, on parle de réfugié et les journalistes, je ne sais pas si vous vous souvenez, début septembre, on lançait toute une campagne pour dire « Utilisons les bons mots. Ce ne sont pas des migrants, ce sont des réfugiés. Je comprends leurs soucis. Juridiquement, ce n'est pas correct. Ils arrivent, c'est, pour les juristes, c'est des candidats réfugiés. Ils enregistrent leur demande d'asile. Pendant la procédure, c'est toujours des candidats réfugiés. Ils seront réfugiés au moment où ils sont reconnus par le CGRA, qui est cette instance indépendante, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui statue sur la demande d'asile. C'est à partir de ce moment-là qu'ils sont réfugiés. Ou si l'instance d'appel, le conseil du contentieux des étrangers, leur reconnaît le statut de réfugié après l'appel. Mais tout ça pour dire... Ce sont des candidats réfugiés, ils ont droit à l'accueil. Et à la Ligue des droits de l'homme, nous, même si je comprends le fait de ces mots, je fais une petite parenthèse, je n'aime pas me laisser enfermer dans ce débat du réfugié face aux migrants, parce que sinon c'est le bon réfugié qui fuit la guerre face aux mauvais migrants économiques. Et je trouve que c'est un peu trop réducteur, et surtout pour le migrant économique qui n'est pas d'office mauvais, qui a parfois aussi de bonnes raisons de quitter son pays. L'aide, il a droit à quoi, le candidat réfugié? Eh bien, il a droit à l'aide matérielle. Le fameux Bat-Bat-Brot. Hein, vous avez sûrement déjà entendu M. Franken, insister sur le Bat-Bat-Brot, ça sonne mieux en flamand qu'en français. Hein, le lit, le bain et le pain. Et il le martèle tellement pour rassurer son électorat qu'on a l'impression que c'est lui qui l'a inventé. Mais c'est faux, ça existe depuis 2001. Justement, en réaction aux 42 000 personnes qui sont arrivées en l'an 2000, on a voulu, quand je dis « on », c'est le gouvernement, hein, ils ont voulu envoyer un signal clair et ils ont pris deux mesures radicales pour rendre la Belgique moins attractive sur le marché, j'ai envie de dire presque essence inime, sur le marché des passeurs qui amènent les réfugiés à travers la forteresse Europe. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme deux mesures? Eh bien, d'abord, ce Bat-Bat-Brot, c'est l'aide matérielle au lieu d'aide financière. Avant, un candidat réfugié se voyait désigner un CPAS qui lui donnait une aide financière et il pouvait aller se loger sur le marché privé. Il touchait l'équivalent du minimex ou du revenu d'intégration sociale. C'était à l'époque 20 000 francs belges, 500 euros. Et il se débrouillait. Il avait plus s'il était avec des enfants et en famille. Et il se débrouillait. On a dit non. Mauvais signal, on va donner l'aide matérielle. Ce qu'on dit, et donc c'est dans des centres d'accueil, dans des conditions souvent d'hébergement collectif, dortoirs, etc. C'est toutes les casernes qu'on ouvre pour l'instant, mais qu'on a ouvert donc aussi à l'époque. Cette aide matérielle, on le dit rarement, mais ça coûte deux fois plus cher que l'aide financière. Mais soit, c'est un choix politique, mais il faut quand même pouvoir le dire. Et la deuxième mesure, on a un peu oublié ça, c'est le passage du FIFO vers le LIFO. Hein, donc il y avait une longue file d'attente au point qu'une procédure d'asile durait quasiment 2, 3, voire parfois 4 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme signal ? Ben, ils ont dit, on va changer l'ordre de la file d'attente, on va commencer par le dernier arrivé. Hein, comme ça, dans les 3 mois, il aura une réponse négative, en espérant, à sa demande d'asile. Et ça va donner un signal clair vers l'étranger en disant, hein, en Belgique, il y a un fameux changement, la procédure d'asile, maintenant, c'est tout de suite qu'on a une réponse négative, alors qu'avant, il restait du CPAS, et puis il y avait la procédure qui durait 2-3 ans, et on se disait, c'est attractif. Donc voilà, deux changements, FIFO, LIFO, et bad road. Alors, une critique que nous avons, là, les droits de l'homme, on n'est pas les seuls, beaucoup d'organisations l'ont eu, c'est que, sous Marie de Bloch, on a commencé à fermer toute une série de places d'accueil. Alors, ce n'était pas des places structurelles au départ, ils ont fermé des places d'accueil, mais Marie de Bloch a commencé aussi, elle a fermé 6000 places. Et M. Franken, qui, sur les bancs de l'opposition à l'époque, n'arrêtait pas de crier qu'il pouvait faire encore mieux qu'elle, depuis qu'il est en poste, il doit quand même se prouver qu'il fait encore mieux qu'elle, alors qu'elle s'est rendue très populaire sur le dos, quand même, des réfugiés, des étrangers, Madame de Bloch. Maintenant, elle sévit à la santé, mais ça, c'est une autre question. Je disais à l'époque, vivement qu'elle change de ministère, pour que son incompétence éclate au grand jour dans un secteur qu'elle est censée bien connaître, à savoir la santé, vu qu'elle est médecin. Mais en tout cas, à l'asile et aux migrations, elle a fait énormément de dégâts pour se construire une popularité, en ce compris en Wallonie. C'est une femme politique qui communique de manière très simple, très directe, mais pas envie d'en faire le procès ici de Madame de Bloch, mais de dire que sans une vraie connaissance du dossier, mais avec du bon sens qui plaît peut-être au téléspectateur, à l'auditeur et à l'électeur, mais pour un problème qui est éminemment plus complexe. Alors, on ne peut pas faire ce procès-là à M. Franken, il sait ce qu'il fait, il connaît beaucoup mieux ses dossiers, et il connaît bien le sujet parce que pendant 2 législatures sur les bancs du Parlement, il l'a suivi, c'est son dada, et il a voulu continuer à fermer les places d'accueil, je reviens dans le rail de mon exposé, il a voulu continuer à fermer des places d'accueil contre tous les signaux. On lui a dit, les organisations humanitaires lui ont dit, il y avait des signaux qui montraient que le nombre de réfugiés grandissait déjà, arrivait au port de l'Europe, qu'il ne fallait pas continuer à fermer des places d'accueil. Il a encore fermé des places d'accueil jusqu'au début juillet 2015, alors que le nombre augmentait déjà depuis le printemps. Mais il espérait, en libérant des places et en expulsant davantage de personnes des centres d'accueil, libérer assez de places pour compenser l'augmentation des arrivées. Et ça lui a explosé à la figure. Le résultat, c'est le parc Maximilien. C'est l'arrivée des réfugiés. Moi, je me souviens, fin août, la première semaine après mon retour de vacances, on commence à voir qu'il y a un problème. Je vais au parc Maximilien un dimanche soir, fin août. Il y avait une petite dizaine de tentes, une vingtaine de personnes. Et déjà une petite file d'attente le dimanche soir pour aller demander l'asile le lundi matin à l'Office des étrangers, parce que c'est à l'Office des étrangers que le candidat réfugié enregistre sa demande. Et puis en quelques jours, ce parc Maximilien grandit. Et ce parc Maximilien, qui est une formidable réussite de citoyens, qui disent « on ne peut pas laisser les gens à la rue, on va bouger, on va organiser un accueil », c'est une très belle réussite de la plateforme citoyenne, mais c'est une baffe dans la figure du gouvernement, parce que c'est les citoyens qui ont pallié au manquement de l'État belge. Dans les obligations de la Belgique, il y a l'accueil des réfugiés, et on n'a pas été à la hauteur pour accueillir les réfugiés. Et alors on a trouvé toute une série de raisons pour justifier. Le gouvernement était très inventif. Hein, c'était le plafond, le fameux plafond de 250 personnes par jour, hein, parce que la salle d'attente était trop petite. En fait, c'est parce qu'on ne savait pas créer, après l'enregistrement, les places d'accueil, parce qu'on en avait fermé beaucoup trop en amont et qu'on ne savait pas les rouvrir assez rapidement. Mais le chiffre de 250 par jour maximum, c'est absolument purement managérial. Et aussi, il faut le dire, une volonté de décourager le candidat réfugié qui arrive et qui est dans le parc Maximilien, qui ne sait pas très bien ce qui va se passer, Et c'est dans ce contexte-là aussi qu'il faut inscrire le fait que Franken a distribué à tous les réfugiés en provenance d'Irak une lettre pour dire, pour les décourager en fait, pour dire « attention, nous ne reconnaissons pas le statut de réfugié automatiquement aux Irakiens, au contraire, on va aussi vérifier si vous êtes passé par un autre pays européen précédemment ». Et quel a été le résultat ? Cette lettre qui était très très dissuasive, très très décourageante, et qui annonçait presque aux réfugiés, aux candidats réfugiés irakiens, qu'il allait certainement passer par un centre fermé et être expulsé, eh bien qu'il y en a beaucoup qui ont pris leur clic et leur claque, comme on dit à Bruxelles, et qui sont partis en Allemagne, parce qu'à cette même époque, Mme Merkel avait dit que l'Allemagne allait accueillir les réfugiés, etc. Ils se sont dit, on va plutôt tenter notre chance là-bas. C'est une réalité. C'est évidemment réfléchi. M. Franken est un homme intelligent qui connaît bien le dossier. Cette politique a permis que des personnes passent leur chemin et ne viennent donc pas demander l'asile en Belgique, mais aillent plutôt demander l'asile dans un pays voisin. Il a même diminué à un moment donné à 125, parce qu'on arrivait au bout des possibilités de places d'accueil en Belgique. Le fameux plan de répartition qu'on réclame en disant chaque commune prend un nombre et on répartit équitablement se heurte à un niet de bourgmestres flamands, principalement de la NVA et de l'OpenVLD, donc de son parti aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit à un moment donné ? On réduit à 125 personnes par jour qui peuvent demander l'asile, qui peuvent enregistrer leur demande. Et là, c'était une question parce que la salle d'attente, qui est non seulement trop petite, mais on ne savait pas assez l'aérer et l'air n'était pas. C'était finalement dans l'intérêt des demandeurs d'asile de ne pas accepter plus que 125. Il faut pouvoir le dire sans rire et sans sourire. Hein, mais tout ça, c'est évidemment contraire aux obligations légales d'un gouvernement qui doit pouvoir accueillir et enregistrer et examiner les demandes d'asile des personnes qui se présentent. Alors, la procédure d'asile, je ne vais pas vous faire un exposé sur la procédure d'asile. Elle est enregistrée à l'Office des étrangers, qui après transmet au commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est un organe indépendant qui statue. Heureusement, hein, parce que si ça dépendait de l'Office des étrangers, je pense que, et M. Baudard et moi, on n'aurait plus que des cheveux blancs. Et c'est heureusement un organe indépendant qui statue sur les demandes d'asile. La preuve, la meilleure preuve, c'est que quand moi j'ai commencé le barreau en 94, on devait avoisiner à un taux de reconnaissance de 7-8% des demandes d'asile qui étaient acceptées. Puis petit à petit, ça a augmenté, 10%. Je pense que vers les années 2003-2004, on est monté à 20%, non ? Pas si vite ?
8%.
Puis petit à petit, on est monté. Peut-être qu'il y a 2-3 ans, on était à 20%. Et puis maintenant, on fait un bond. Et je pense que pour 2014, on était à 60%. Hein, donc c'est vraiment... Et voilà. C'est la preuve que le CGRA, et je suis souvent là pour critiquer, mais il faut aussi pouvoir dire les choses positivement, c'est la preuve que le CGRA est indépendant. Parce qu'évidemment, c'est la hantise du gouvernement de voir que maintenant, tous ces candidats réfugiés sont, ou la majorité en tout cas, sont reconnus. Alors, la question du statut. On en a fort parlé depuis septembre, parce que cette question du statut du réfugié inquiète fort, surtout dans le nord du pays. Juridiquement, faisons du droit, un réfugié reconnu, pendant sa procédure, c'est bad, mais une fois qu'il est réfugié reconnu, il a les mêmes droits qu'un national. C'est la Convention de Genève qui le dit dans ses différents articles, les mêmes droits qu'un national. Alors quand j'entends Gwendoline Rutten, la présidente de l'OpenVLD, c'est le parti... frère ou sœur du MR, les libéraux flamands. Quand Gwendoline Rutten dit aux Evens de Dach, à la VRT, le dimanche, « Il n'est pas normal que le réfugié qui arrive ait les mêmes droits que le Belge qui a cotisé toute sa vie », j'avale de travers. Parce que je crois que quand on arrive au poste de président de parti en Belgique, on est quelqu'un d'intelligent. Et c'est faux, évidemment. Un réfugié qui vient d'arriver, j'imagine qu'elle le sait, qu'il n'a pas les mêmes droits qu'un Belge, qu'il a juste droit au « bad, brood », et puis, même s'il est reconnu, il n'a pas les mêmes droits qu'un Belge qui a cotisé toute sa vie. Non, il a les mêmes droits qu'un national qui est dans sa situation. Donc, un national qui n'a jamais cotisé, on pourrait imaginer l'étudiant qui, ou la personne qui ne termine pas ses études et qui va frapper à la porte du CPAS, eh bien, il a droit au filet de la sécurité sociale qui est l'aide sociale, sous certaines conditions, d'être disponible sur le marché du travail, de rechercher du travail, de collaborer avec les services sociaux du CPS, etc., eh bien, le réfugié, il aura les mêmes droits qu'un Belge qui n'a jamais cotisé. Ce qu'elle dit là, pas normal qu'un réfugié qui arrive ait les mêmes droits qu'un Belge qui a cotisé toute sa vie. L'auditeur, le téléspectateur, il dit, ben, c'est quand même vrai, hein, ça. Mais c'est vrai, c'est compréhensible si on ne sait pas, si on ne sait pas décortiquer ce langage qui est de la communication, mais c'est faux ce qu'elle dit, et c'est ça, c'est un bel exemple, on pourrait l'enseigner à l'université s'il y avait un cours de décryptage du populisme, ce serait un bel échantillon, parce que c'est évidemment du populisme, on joue sur les appréhensions et les craintes des citoyens, pour essayer de surfer justement sur ces inquiétudes, plutôt que de faire de la pédagogie, ce qu'on est en train de faire ce soir, ça prend évidemment un peu plus de temps. Même chose quand Bardewever parle de créer, ah maintenant il faut créer un sous-statut, hein. Il faut créer un sous-statut, c'est pas possible, Convention de Genève, c'est pas possible, on doit revoir la Convention de Genève. Alors bon amusement à M. Dewever, s'il veut revoir la Convention de Genève, il peut peut-être, il aime bien écrire des lettres à d'autres dirigeants européens, il l'a fait le week-end dernier, avant, le week-end avant les attentats, mais il peut peut-être écrire une lettre aux 147 pays signataires de la Convention de Genève en disant comment ils doivent revoir la Convention, c'est évidemment impossible. Hein, il y a plusieurs responsables politiques qui ont dit mais c'est pas sérieux. Mais du coup, il communique, il envoie un message. Et en plus, moi je pointe l'évolution de son discours. Dans un débat face à Philippe de Winter en 2012, Philippe de Winter qui était à l'époque président du Vlaams Belang, l'ancien Vlaams Blok, il a dit « mais c'est ça qui nous différencie. Nous, la Convention de Genève, dat zijn mensenrechten. Daar komen wij niet aan. Ce sont des droits humains, nous n'y toucherons pas. Et vous, extrême droite, vous voulez revoir ça. Et nous, Parti démocratique, jamais. » En 2015, il a changé d'avis. Essayons de comprendre pourquoi il a changé d'avis. En 2012, quand il y avait un taux beaucoup plus bas de reconnaissance, son discours c'était « il faut faire la chasse et la traque aux fraudeurs, ceux qui rentrent en Belgique et profitent de la procédure d'asile pour essayer de faire une procédure d'asile alors qu'ils ne méritent pas la protection, ce n'est pas des demandeurs d'asile, et donc il faut plus vite rejeter ceux-là. » Et puis, donc d'abord s'attaquer aux fraudeurs. Et puis à un moment donné, là, on arrive à un taux de reconnaissance de plus de 60%, il veut s'attaquer au système. Et ça, c'est un, on pourrait, en cours de sciences politiques, peut-être examiner ça, parce qu'à la Ligue des droits de l'homme, sur une conférence sur la révision du système du chômage, j'avais fait le même parallèle avec ce qui est en train de se faire. C'est qu'il y a quelques années, tout le monde, ces responsables politiques de la droite décomplexée, faisait un discours très fort sur « il faut débusquer les profiteurs et les fraudeurs ». Et qu'est-ce qu'on voit? En quelques années, on s'attaque au système et on veut démanteler le système. Visiblement, c'est une manière de travailler ou de vouloir réviser et pousser son programme. Et donc, il veut démanteler le système. Et évidemment, voilà, nous dénonçons cela, mais heureusement, nous ne sommes pas seuls à dénoncer ça. Pour clôturer ce point 2, on voit une criminalisation du réfugié. On l'a vu dans l'actualité depuis la rentrée. À Coxyde, souvenez-vous, le bourgmestre qui dit... à Coxyde, il s'était illustré il y a 2 ans avec une « very irritating police » contre les jeunes. Il ne supportait pas qu'il y ait des jeunes, surtout des jeunes français, qui venaient dans sa commune s'asseoir sur des bancs, etc. Et donc il avait une « very », l'appellation vient de lui, hein, une « very irritating police » qui harcelait les jeunes. Et il a dit qu'il allait mettre sa « very irritating police ». Maintenant, comme mission, c'est surveiller les réfugiés parce qu'il y a un centre d'accueil sur sa commune. Et tolérance zéro. Il avait déjà fait 5 PV. 3 PV pour des réfugiés qui prenaient du Wi-Fi non sécurisé sur leur GSM qui était à des particuliers. Je ne sais même pas si c'est une infraction, si on ne sécurise pas son Wi-Fi, si quelqu'un se branche dessus. Mais bref, le procès-verbal avait été dressé. Et 2 réfugiés qui s'étaient promenés sur la plage sans leur badge. Le procès-verbal avait été rédigé. Je ne sais pas s'il y aura un procureur pour poursuivre. Mais ça montre l'absurdité. Je vais revenir sur la question du badge. Il demandait aussi que la police soit autorisée à faire des perquisitions sans mandat tous les jours des policiers avec un gilet pare-balles. Pourquoi est-ce que le policier doit être avec un gilet pare-balles, sauf à induire l'idée que le réfugié est quelqu'un de dangereux, et que la police devait avoir le numéro de GSM de tous les réfugiés, tous les candidats réfugiés qui étaient dans le centre d'accueil. Est-ce que la police a tous vos numéros de GSM? Moi, la police, je pense pas. Enfin, il est sur Internet, mais je ne pense pas que la police a intérêt à avoir les numéros de GSM de tout le monde. Ça montre vraiment cette criminalisation. La question du badge. Souvenez-vous, il y a M. Yambon qui dit il faut qu'ils aient le badge. Et dans sa première version, j'ai été réécouter les interviews, c'était le badge devait être porté autour du cou de manière bien visible. Puis il a dit qu'il devait les porter, donc pas seulement bien visible, mais... Et puis l'explication était que c'était finalement dans l'intérêt, parce qu'au départ c'était oui, mais un réfugié qui appartient à Seychelles, comme si un réfugié appartient à Seychelles, qui vient du centre d'accueil de Seychelles, s'il se promène à Liège, la police doit savoir qu'il il vient de Seychelles. Mais d'accord, le réfugié, le candidat réfugié, il a la même obligation que vous et moi, c'est d'avoir son document d'identité sur lui. Alors pour nous, c'est notre carte d'identité. Pour le candidat réfugié, c'est l'annexe 26, qui est une feuille A4 avec la photo et toutes les données, ou la carte orange, qui est l'attestation d'immatriculation, comme nos anciennes cartes d'identité pour les moins jeunes de l'Assemblée, la carte d'identité verte en deux volets. Eh bien... Les candidats réfugiés ont une carte orange comme ça, avec beaucoup plus de données que ce fameux badge que visiblement M. Yambon voulait pousser. Il a fait une courbe rentrante en disant que c'était le porté sur soi, etc. Beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi des organisations comme la Ligue des droits de l'homme s'excitaient en dénonçant le port obligatoire du badge, en disant « mais nous, on porte justement une carte d'identité, donc pourquoi pas eux un badge ?» Mais ils ont déjà une carte d'identité, pourquoi ils doivent avoir un badge supplémentaire? Ce badge, c'était à l'origine, ce badge qui existe, c'est pour le fonctionnement interne du centre d'accueil, soit, mais imposer un badge supplémentaire qui devait porter autour du cou, non, merci. Autre mesure. Si demain, vous allez dans un centre pour réfugiés, un centre ouvert, hein, je ne parle pas des centres fermés, un centre ouvert, vous devez donner votre nom et votre identité. Qu'on sache quand même hein, que vous allez passer votre temps libre à aller voir des réfugiés dans un centre. Pourquoi ils ont besoin de savoir qui vient rendre visite aux candidats réfugiés dans les centres? Impossible de ne pas parler des sans-papiers. Parce que les sans-papiers, finalement, c'est les réfugiés de hier. Les réfugiés qui n'ont pas été reconnus, les candidats réfugiés déboutés, les uitgeprocederden, comme disent les Flamands, eh bien, ils deviennent sans papier et eux, avec la crise actuelle, risquent d'être les grands oubliés. Le problème est ancien, ils ont des droits, mais au fil des années, depuis que je suis devenu avocat, on a vu ces droits se restreindre et ils ont surtout le droit au retour dans leur pays et ils ont encore droit à l'aide médicale urgente, qui porte très mal son nom, c'est l'aide médicale nécessaire, en fait. Mais tout ça, c'est aussi une communication. Le gouvernement n'a pas voulu que ça s'appelle aide médicale nécessaire, ça s'appelle aide médicale urgente, pour ne pas paniquer les lecteurs. Et donc, c'est seulement si c'est vraiment urgent qu'ils auront de l'aide. Quoi. Il y a eu des campagnes de régularisation. Moi, j'en ai déjà connu deux, une en 99-2000 et une en 2009. Chaque fois est allée sur un certain temps. C'est évidemment nécessaire, des sociologues disent, et des économistes aussi, que des sociétés comme les nôtres ne peuvent pas faire l'économie de régularisation des sans-papiers. Pourquoi? Parce que les sans-papiers contribuent à notre économie. Notre économie a besoin de cette force de travail. Et des études montrent que des campagnes de régularisation boostent aussi l'économie parce que du coup, ça blanchit tout d'un coup des pans entiers de l'économie. C'est nécessaire, mais c'est insuffisant. La campagne de régularisation de 2009, qui s'est traînée en longueur jusqu'en 2013, je vous épargne les détails, il y a la régularisation par le travail, le fameux point 2.8b qui n'a pas du tout fonctionné, qui était un échec. Ou alors des personnes qui ont obtenu un travail, qui ont eu leur carte de séjour, mais au bout de 3 ans et demi, leur employeur fait faillite et hop, ils redégringolent l'échelle et ils retombent au niveau du sans-papier. Il y a eu beaucoup, beaucoup de dégâts humains dans les suites de cette campagne de régularisation. Des organisations comme la Ligue des droits de l'homme, mais toutes les organisations en lien avec le droit des étrangers, réclament depuis toujours des critères clairs et précis, permanent pour la régularisation, parce que ce qui existe actuellement, et j'en dis un tout petit mot, c'est l'article 9 bis de la loi sur les étrangers, et là, et je le dis sous le contrôle de monsieur le professeur, mais je le dis avec des termes très durs, c'est probablement l'exemple type de la loi la plus hypocrite de notre arsenal législatif. Pourquoi? Parce que la loi dit, l'article 9, si vous voulez demander un long séjour en Belgique, enfin un droit de séjour en Belgique, vous devez le demander dans votre pays d'origine, à l'ambassade de Belgique, au poste diplomatique de votre pays d'origine. Et puis il y a l'article 9 bis qui dit, si vous justifiez de circonstances exceptionnelles, vous pouvez introduire la demande auprès du bourgmestre de votre commune de résidence en Belgique. Et c'est là que le bât blesse, c'est que dans 99,99% des cas, j'exagère à peine, La réponse est, votre demande est irrecevable parce que vous ne justifiez pas de circonstances exceptionnelles qui vous empêchent, vous, famille tunisienne, je dis ça parce que j'ai eu un Tunisien, pardon, un Algérien au téléphone tout à l'heure, 4 enfants, un de ses enfants est décédé en Belgique, est enterré à Liège, sa femme est enceinte du quatrième, elle va accoucher la semaine prochaine, et il vient de recevoir une réponse négative de sa demande 9 bis. Ils sont en Belgique depuis 2005, il a été exclu de la procédure de régularisation 2009 parce qu'il est arrivé juste après le 15 décembre 2004 et donc juste trop tard pour bénéficier juste de la régularisation de son séjour. Donc il devait trouver un employeur, il avait trouvé un employeur, il a eu son séjour pendant un an et puis il a perdu son travail pour des raisons indépendantes de sa volonté, le patron qui a fait faillite. Et puis voilà, il est devenu sans papier et maintenant il vient de recevoir cet après-midi un ordre de quitter le territoire. On lui dit, parce qu'on avait fait une nouvelle demande de régularisation, on lui dit, vous ne justifiez pas des circonstances exceptionnelles qui vous empêchent de retourner à Alger, faire la demande là-bas. Donc, ça veut dire que c'est irrecevable, on n'a même pas examiné les fondements de sa demande. Le fait qu'il a des enfants qui sont nés ici, qu'il a un enfant qui est mort ici, qui est enterré, le fait que ses enfants vont à l'école ici, tout ça, ça ne compte pas. C'est irrecevable. Alors, on peut parler aussi très brièvement des 9 terres, c'est la régularisation médicale qui, on le voit, sous Marie de Bloch, qui était pourtant médecin, a été fortement réduit au point où finalement, en pratique, et je vais un peu vite, mais en pratique, si on ne prouve pas finalement, on ne démontre pas qu'on risque de mourir dans les 3 mois, eh bien, on estime qu'on peut retourner dans son pays, se faire soigner dans son pays. Et c'est comme ça que des demandes de régularisation pour des personnes qui sont malades du sida, eh bien, on les renvoie au Cameroun. Des personnes qui sont très gravement malades, avec cancer du foie, par exemple, on dit, mais vous pouvez aller vous soigner au Congo, parce qu'on a vu sur Internet, à l'Office étranger, on a vu sur Internet qu'il y avait des soins techniquement possible dans ce pays-là, mais sans réfléchir, de voir si c'était accessible, si la personne allait pouvoir réellement se soigner, si c'était finançable. Et donc, des personnes qui ont été régularisées pour raison médicale dans le passé, mais reçu une carte de séjour d'un an, un an, un an, et c'est seulement au bout du 5e renouvellement, quand on a eu 5 ans de séjour, une carte d'un an, qu'on peut avoir un séjour définitif, et au dernier renouvellement, crac, vous pouvez aller vous faire soigner dans votre pays d'origine. Et on oublie tout, alors que vous avez derrière vous 4 ans de séjour légal. Des situations, mais tristes à pleurer, où on sait que malheureusement, faire un recours ne va pas solutionner. Et pour ces 9 terres, je dénonce, et je profite de la présence de M. Baudard, de dénoncer le carrousel que l'Office des étrangers met en place. Nous, au bureau, et mes confrères qui font la même matière que moi, face à des situations de refus de régularisation médicale, on fait un recours au Conseil du contentieux des étrangers, longuement motivé, 10-15 pages d'argumentation, hop, l'Office des étrangers retire la décision négative. Et donc le Conseil du contentieux dit, ah, c'est sans objet, la décision négative a été retirée. Que fait l'Office des étrangers? Ils reprennent une décision négative, légèrement modifiée différemment. On doit refaire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, hop, ils retirent. Jusqu'à 2, 3, voire dans certains cas, 4 fois, on fait le carrousel, on doit faire le recours. L'État belge doit payer un avocat pour l'Office des étrangers. L'État belge doit payer un avocat, dans le cas de l'aide juridique, pour la personne. Et on dit que le budget de l'aide juridique, il y a des abus de procédure, enfin de frais d'avocat qui abusent de la procédure, alors qu'on est contraint de faire ces recours, parce que c'est l'ultime possibilité pour les personnes. Eh bien, ça ne va pas. La Ligue des droits de l'homme, avec des médecins, avec d'autres organisations, et l'idée est partie de la Ligue des droits de l'homme, on a fait un livre blanc pour dénoncer ce dysfonctionnement du 9 terres, de la régularisation médicale. Cette criminalisation, on le voit pour les sans-papiers, j'ai pas encore parlé des centres fermés, mais la Ligue des droits de l'homme est pour la suppression des centres fermés. Nous estimons qu'enfermer une personne uniquement parce qu'elle n'a pas le bon cachet sur le bon papier, ben ça ne va pas. Et il faut savoir, et je pense qu'on ne se rend pas compte de... Hein, on dit souvent que l'Occident se fait détester par le monde entier, mais je pense que ça, le fait d'enfermer des migrants, doit y contribuer. Il y a plein d'autres raisons pourquoi quoi, on est détesté par une bonne partie du monde, mais le fait d'enfermer des migrants, juste parce qu'ils n'ont pas le bon cachet sur le bon papier, je pense qu'un jour, et c'est un espoir que j'ai, nos enfants, et peut-être pas nos enfants, mais nos petits-enfants, nous jugeront pour ça. Que comment est-ce qu'on peut priver de liberté et mettre quelqu'un dans une prison juste parce qu'il n'a pas le bon cachet sur le bon papier ou qu'il n'a plus le bon cachet sur le bon papier. Il faut savoir aussi, et je ne l'ai pas dit pour les candidats réfugiés qui arrivent, mais ceux qui arrivent par l'aéroport de Zaventem, bien souvent, on les conduit directement au centre fermé, alors qu'ils demandent l'asile, et on va examiner leur demande d'asile en accéléré quand ils sont dans le centre fermé. Comme ça, c'est plus facile pour les expulser quand on aura donné une réponse négative. Donc, les gens qui arrivent, on les enferme tout de suite, alors qu'ils viennent demander la protection, et ils se retrouvent derrière les barbelés en bord de piste. Les centres fermés, certains disent « Ah oui, mais c'est un mal nécessaire, on ne peut pas fonctionner autrement. » Eh bien, avant 89, il n'y avait pas de centre fermé. Alors, le monde a peut-être changé depuis 89, mais 89, c'est pas non plus il y a si longtemps, et on fonctionnait sans centre fermé. On a construit les centres fermés parce qu'il fallait que les détenus de droit commun, on puisse qui avaient purgé leur peine, qui avaient fait des bêtises, avaient purgé leur peine, eh bien, qu'on puisse les garder sous la main pour les expulser. Et donc, on a ouvert le centre 127 Chaussée d'Acte à Melsbrook, en bordure de piste, l'aéroport militaire. C'était des blocages, des containers qui sont restés en activité jusqu'à il y a quelques années, parce que, comme toujours, en Belgique, le provisoire est fait pour durer. Et puis, on s'est dit, mais il y a aussi des femmes. On y a mis des femmes. Puis on s'est dit, mais on ne va pas mettre seulement les détenus de droit commun qui ont purgé leur peine, ceux qu'on doit expulser parce qu'ils sont en séjour illégal, on va les rajouter. Et puis on s'est dit, mais il y a aussi des familles. Eh bien, on va mettre les enfants aussi, les familles avec enfants. Et puis on a même mis des enfants tout seuls. Souvenez-vous, la petite Tabitha, la Belgique a été condamnée en 2006 par la Cour européenne des droits de l'homme parce que la petite Tabitha avait passé 2 mois et demi, si mes souvenirs sont bons, à 6 ans, dans le centre 127 bis. Elle pouvait téléphoner tous les jours pendant 10 minutes à sa maman au Canada. Si on avait dit en 89, on va vous faire des centres fermés, on va enfermer même des enfants tout seuls, tout le monde aurait dit non, en disant « not in my name ». Mais comme souvent, en matière de droits humains, on y a été petit à petit. Vous connaissez le théorème de la grenouille ? Théorème de la grenouille, vous prenez une grenouille, vous la mettez dans une bassine, dans une casserole avec de l'eau chaude, vous chauffez à petit feu, elle va s'adapter à la température, et puis quand elle va trouver que l'eau est très chaude, elle va s'engourdir, elle va s'endormir, elle va cuire, elle va mourir cuite. Si vous prenez la même grenouille et que vous la mettez dans une marmite d'eau bouillante, vous la jetez dans la marmite d'eau bouillante, elle va faire un bond en dehors de la marmite. Eh bien, c'est la même chose pour les droits fondamentaux. Ils y vont petit à petit. Pour les centres fermés, si on nous avait dit en 89, on va vous construire un centre fermé et on va mettre des enfants tout seuls dedans, tout le monde aurait dit « Ah non, pas ça ». Mais parce qu'on y a été petit à petit, en élargissant, on s'est laissé endormir, et il a fallu tout un combat pour sortir les enfants des centres fermés. Pour l'instant, il n'y a plus d'enfants en centre fermé. Il y a eu des condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais M. Franken réfléchit déjà à pouvoir construire dans le centre fermé des unités familiales pour pouvoir de nouveau introduire des enfants dans les centres fermés. Pendant les vacances de Noël, M. Franken qui dit « Je vais étudier une proposition de mon administration de pouvoir effectuer des visites domiciliaires, des perquisitions chez des particuliers sans mandat ». S'il y a suspicion qu'il y ait des sans-papiers qui sont là. C'est des droits constitutionnels, le domicile est protégé, il faut un mandat d'un juge d'instruction. Eh bien, il voulait, rien que le fait qu'il se pose la question est choquante, pouvoir pénétrer dans des maisons où on suspecte qu'il y a un sans-papier. Si vous avez chez vous, peut-être, vous hébergez un sans-papier, et qu'il a des soupçons, eh bien, il voulait examiner la possibilité de venir chez vous et de forcer la porte sans mandat. Ça ne va pas. Le séjour illégal est une infraction pénale, l'article 75, c'est l'article 75 sur les étrangers, c'est une infraction pénale. Nous demandons de décriminaliser le séjour illégal. Il y a déjà suffisamment de lois dans l'arsenal législatif qui permettent de priver de liberté administrativement, pas besoin d'en faire un délit pénal. Bref, beaucoup d'injustices dans notre manière d'aborder ce droit des étrangers. Petit exemple encore, les refus de visa systématiques. Encore avant l'été, j'ai reçu plusieurs familles des Belges congolais d'origine, notamment monsieur médecin, madame travaille aussi à un poste, 4 enfants. La mamie qui vivait à Kinshasa n'avait jamais vu les petits-enfants, parce qu'ils sont tous nés ici. Ils n'ont pas assez d'argent pour payer 6 billets aller-retour vers Kinshasa pour l'été. Ils voulaient inviter la mamie pour 3 semaines, 1 mois, venir rendre visite à la famille. Eh bien, refus de visa. Alors, on peut faire un recours au Conseil du contentieux des étrangers. Les délais sont assez longs, la procédure est assez coûteuse. Et le Conseil du contentieux des étrangers ne peut pas se substituer à l'Office des étrangers dans l'analyse du dossier. Et donc, il y a un refus quasiment systématique dans des dossiers, chaque fois en disant « risque migratoire ». Mais c'est profondément injuste dans des situations comme ça. Je ne parle même pas du regroupement familial qui a été vraiment rétréci. L'Europe. Que fait l'Europe? Je vais un peu accélérer. Que fait l'Europe? Juste insister sur le fait, je ne sais pas si ça vous a frappé aussi, mais que depuis longtemps, face à cette problématique des réfugiés, on entend nos dirigeants dire « Oui, mais c'est compliqué, il faut que les solutions viennent de l'Europe ». Et chaque fois que c'est compliqué, ils disent « Il faut que la solution soit européenne, on ne peut pas régler ça à notre niveau, au niveau belge ». Très bien. Quand la commission Juncker est venue avec des propositions de solutions au printemps, souvenez-vous, les quotas, on peut critiquer, 40 000, c'était déjà dépassé par la réalité, peu importe, mais les premiers à réagir, Monsieur Franken, « Ah non, non, pas de quotas, nous on fait déjà assez comme ça. » Monsieur Valls, Premier ministre français, « Ah non, non, pas de quotas, etc. » Donc on demande des solutions au niveau européen, quand on vient avec des propositions, ça ne va pas. Il y avait des solutions, il y a des outils européens. L'Europe s'est dotée d'une directive en 2001, justement en cas d'afflux de réfugiés, une protection temporaire avec un plan de répartition au niveau européen. L'outil existe. Ils ne l'ont pas actionné, probablement parce qu'ils ne savent pas se mettre d'accord. Il peut même être actionné à une majorité qualifiée. Il ne faut pas l'unanimité. La Belgique ne peut l'ignorer, parce qu'à l'époque, c'était la Belgique qui présidait le Conseil de l'Union européenne. C'était Van Olanot qui a signé cette directive. Toutes les préoccupations, notamment d'un Bart De Wever, y figuraient. Afflux massif, protection temporaire, répartition sur tous les pays, avec la mise en œuvre. Ce genre d'outil n'a pas été activé. Impossible de ne pas vous parler de Schengen et de Dublin. Schengen, la zone Schengen avec l'abolition des frontières intérieures et justement en corollaire la forteresse Europe qui est de plus en plus forteresse. Et la fameuse, le règlement Dublin. Le règlement Dublin, en un mot, c'est quoi? C'est le pays qui vous a octroyé un visa est responsable de traiter votre demande d'asile et tout ce qui s'ensuit. Ça, on peut comprendre. Mais autre chose dans le règlement Dublin, c'est le premier pays que vous, dans lequel vous arrivez et vous séjournez est responsable du traitement de tout ce qui suit votre cas, votre demande d'asile, etc. Et là, il y a évidemment un gros problème parce que ça veut dire que la Grèce et l'Italie, qui sont en première ligne, sont sur base du règlement Dublin. On peut renvoyer quasiment la toute grande majorité des réfugiés vers la Grèce ou vers l'Italie. Et c'est pour ça que vous entendez parfois des responsables politiques de notre gouvernement compris ou des gouvernements des pays de l'Est qui veulent le moins de réfugiés chez eux dire « Si on maintient Schengen, il faut une application plus stricte de Dublin ». Mais Dublin, avec cette clause-là de dire que c'est les premiers pays traversés qui doivent être responsables de la demande d'asile, c'est tout juste impossible pour des pays comme la Grèce ou l'Italie. Et donc c'est absolument hypocrite de dire « Moi, d'accord, les conventions internationales, Schengen, etc., mais il faut que alors Dublin soit respecté. Et si c'est pas possible, et il n'y a pas que Marine Le Pen qui dit ça, hein, Bart De Wever dit la même chose, mais si c'est pas possible, on fermera les frontières intérieures, donc on renie Schengen. » Les attentats à Paris ne font que exacerber cette volonté de ne... Hein, j'entends, le lendemain des attentats, le Premier ministre... C'est pas le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères polonais dit « Après Paris, c'est plus possible. Nous, on va pas prendre les quotas, même si c'est une décision européenne. C'est plus possible pour nous d'accepter de prendre ces réfugiés. » En Slovaquie, pareil. Le gouvernement a communiqué autour de ça. Donc... et c'est de plus en plus, on l'entend, et donc pas seulement de la bouche de Marine Le Pen sur le plateau de télévision hier. Pour terminer, l'avenir. Pas seulement critiquer, mais aussi venir avec des propositions. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour faire autrement? Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être pour couper l'herbe sous le pied des passeurs, des visas humanitaires. Je ne m'étends pas dessus, j'en ai parlé. Des canaux légaux d'immigration. Instaurer des canaux légaux d'immigration, avoir une réflexion peut-être sur les besoins de l'Europe à plus long terme. On parle du vieillissement de la population, c'est pas pour rien que Mme Merkel a ouvert les bras. C'est pas seulement parce qu'elle a été je crois sincèrement ému par la situation, mais aussi parce que la population en Allemagne est très vieillissante, ils ont un problème sur le marché de l'emploi, le patronat d'ailleurs était assez enthousiaste aussi. Il y a des questions de vieillissement de la population qui se posent dans d'autres pays, chez nous aussi, mais en moindre mesure. Prévoir des canaux légaux d'immigration. Et puis, ici, ce qu'on voit, c'est que l'Europe propose encore plus de ce qui ne fonctionne pas depuis 20 ans. Et si ce n'est pas à l'université qu'on peut réfléchir à des utopies, hein, c'est même d'ailleurs le thème de l'université de Louvain-la-Neuve, hein, les utopies cette année, et c'est peut-être dans les universités que les utopies peuvent être étudiées et devenir réalité. Et puis finalement, il fut un temps où les droits de l'homme qui nous tiennent tellement à cœur aujourd'hui n'étaient qu'une utopie, et aujourd'hui, ils sont dans les textes directement applicables en Belgique. Et c'est quoi cette utopie ? Mais c'est peut-être réfléchir à une liberté de circulation et de ne plus avoir d'ouvrir les frontières. Alors ça peut paraître effectivement, et souvent on perd une partie de l'auditoire quand on lance ces idées-là, mais pourquoi ne pas réfléchir à une ouverture des frontières ? Parce que les frontières sont d'abord artificielles. Est-ce qu'on trouve normal qu'un tiers de l'humanité, à savoir nous tous ici présents, on peut aller dans le monde entier et deux tiers de l'humanité est enfermée chez elle ? Est-ce que c'est normal ? Alors on dit, ah oui, mais attention, hein, si on ouvre les frontières, souvenez-vous, mais beaucoup sont trop jeunes, mais quand on a élargi l'Union européenne aux pays de l'Est, on a entendu des cris en disant « Attention, ça va être le déferlement des pays de l'Est vers ici ». Alors il y a eu des mouvements, effectivement, des pays de l'Est, et puis ça s'est stabilisé. Mais d'abord, il n'y a jamais eu un déferlement. Et il y a des expériences régionales qui fonctionnent. L'Europe est un bel exemple, mais l'Afrique de l'Ouest aussi, le East African Community aussi, où il y a une liberté de circulation, et on voit que des ressortissants des pays pauvres ne vont pas d'un coup envahir les ressortissants des pays plus riches. Parce que, fondamentalement, si on doit déjà être très 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 mal chez soi avant de pouvoir, de vouloir bouger. Et un professeur d'université, collègue de M. Baudard, que moi j'ai eu en droit des étrangers à l'UCL à l'époque, Jean-Yves Carlier, avait pris la parole un jour à un colloque de la Ligue des droits de l'homme en disant « il faut y aller par étapes, pourquoi pas ?» en octroyant ses visas court séjour automatiquement. Et puis, petit à petit, comme ça, on voit qui part, qui vient, qui respecte la durée du visa. Et puis, on dit plus de visa pour les courts séjours, mais pour les longs séjours, un visa. Et on y va progressivement. Et donc, ça va peut-être prendre du temps, mais peut-être que dans une, deux ou trois générations, on aura une liberté de circulation et on solutionne d'un coup la criminalité liée à tous les passeurs. Alors, j'aimerais terminer par une citation de Mamadou Ba. Mamadou Ba, c'est un réfugié guinéen qui a été reconnu réfugié en Grèce. Et là, il a été victime de tentatives d'assassinat de Aube Doré, parti d'extrême droite, et à deux reprises. Et finalement, il a fui la Grèce. Il est arrivé en Belgique grâce à un réseau de solidarité. Et il a été reconnu réfugié en Belgique, il faut le reconnaître. C'est pas facile, alors qu'il avait été reconnu en réfugié en Grèce. On a estimé que ce qu'il avait vécu en Grèce, eh bien, sa fuite de la Grèce ressortissait encore de la Convention de Genève. Il a été reconnu réfugié ici. Et j'ai fait une conférence sur quasiment le même thème avec lui. Et j'ai pris des notes parce que j'ai appris plein de choses avec lui. Et il disait « La migration est quelque chose de naturel, même si on préfère toujours rester chez soi. On ne décide pas de migrer parce que les frontières sont ouvertes. On ne décide pas de ne pas migrer parce que les frontières sont fermées. Alors ouvrons-les. » Alors aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé à Paris, moi, j'ai juste envie de terminer en disant qu'il y a une photo en septembre qu'on a tous vue qui a fait qu'on a ouvert nos bras aux réfugiés, ou en tout cas une bonne partie de la population européenne a ouvert ses bras aux réfugiés. Et il ne faudrait pas qu'un passeport, un vrai faux passeport syrien trouvé sur les lieux des attentats fasse qu'on les referme aujourd'hui. Merci.
Vous venez d'entendre Alexis de Soif, président de la Ligue des droits de l'homme, venu à l'ULB le 18 novembre 2015 pour discuter de la problématique des réfugiés en se posant la question : les réfugiés sont-ils des hors-la-loi ?